info.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Juste après le journal d'émission cinéma, on aura tout vu de Christine Masson et Laurent Delmas. Mais tout de suite, il est 10h sur France Inter. Et c'est l'heure des informations avec Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Des exonérations d'impôts, l'aide de la Banque publique d'investissement pour les agriculteurs dans le rouge. Le Premier ministre dévoile de nouvelles mesures pour le monde agricole. Explication dans un instant. Dans ce journal, reportage à Douvres, en Angleterre. Malgré le danger et la menace d'expulsion vers le Rwanda, les candidats à l'exil sont toujours aussi nombreux. Réparer son smartphone plutôt que de le jeter, c'est l'objectif d'un texte européen adopté cette semaine et les consommateurs sont d'accord. Et puis ça y est, le Belém a quitté le port du Pirée, direction Marseille, avec à bord du trois-mâts la précieuse flamme olympique. Nous serons en Grèce avec notre envoyé spécial Emma Sarango.
France Inter.
Trois mois après la crise qui a secoué le monde agricole, bloqué une partie des routes de France et sérieusement perturbé le salon de l'agriculture, Matignon annonce aujourd'hui 14 avancées pour compléter les mesures déjà annoncées, notamment l'accélération de 100 projets de stockage d'eau ou d'irrigation, un plan d'aide à trois départements frappés par les aléas climatiques, les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault, et tout un volet, Lauriane Delanoë, sur la trésorerie des agriculteurs.
La principale annonce de Gabriel Attal aujourd'hui vise les agriculteurs les plus en difficulté, ceux que les banques classiques ne peuvent plus ou ne veulent plus accompagner. BPI France, la banque publique d'investissement, va prendre le relais avec une enveloppe de 100 millions d'euros en tout. Les exploitants pourront demander un prêt personnel jusqu'à 75 000 euros chacun. BPI France pourra aussi transformer une de leurs créances en prêt immédiat ou encore leur apporter une garantie pour un prêt dans une banque commerciale. Et pour les agriculteurs dans le rouge, en été à la suite d'un désastre sanitaire ou climatique, le Premier ministre acte une exonération partielle d'impôts, des dispositions pour soutenir la trésorerie et le revenu des agriculteurs pour leur redonner de la compétitivité. Avec ce dernier paquet de mesures, le gouvernement estime apporter une réponse globale aux préoccupations des agriculteurs et de leurs syndicats. Il espère ainsi tourner la page de la mobilisation de l'hiver.
Le Premier ministre en déplacement ce matin dans la Manche, notamment dans une exploitation maraîchère. Alerte aux orages dans 8 départements du sud-ouest. Météo France affiche la vigilance orange en Gironde, Charente, Dordogne, dans le Lot, le Lot-et-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne et les Landes, à partir de midi et jusqu'à 23h. Dans le Pas-de-Calais, 54 personnes ont été secourues hier au large d'Ardelot-Plage. Ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle que ce secteur est particulièrement dangereux. Mais ni le danger, ni la nouvelle loi adoptée par le Parlement britannique qui prévoit d'expulser les clandestins vers le Rwanda ne dissuade les candidats à l'exil. Reportage à Douvres sur la côte anglaise d'Emeline Vin.
Une cinquantaine de migrants débarquent d'un bateau de la police britannique, les vêtements trempés, certains pieds nus. Sous les yeux de Carole Higginbottom, directrice adjointe du poste de commande aux petites embarcations.
On conduit de premiers tests à bord pour s'assurer que ceux qui sont blessés ou malades sont traités en premier. Ensuite, ici, on les amène dans une première tente, qui est la tente médicale, où tout le monde sera examiné par un ambulancier. Après, ils entreront dans le système administratif.
Les migrants sont partis du nord de la France à bord d'un bateau pneumatique d'une dizaine de mètres de long. Trevor Taylor, officier supérieur, connaît ce type d'embarcation.
À première vue, ça a l'air d'être un équipement solide, mais en réalité, ça ne l'est pas. Ce bateau n'est pas fabriqué suivant des normes industrielles. Il vient littéralement d'un garage, avec des matériaux inadaptés pour un navire.
Carole Higginbottom espère que le nouveau partenariat avec le Rwanda va mettre un terme à ces traversées.
Je ne peux pas commenter l'aspect politique, mais j'espère que cela aura un impact. Notre priorité, c'est de prévenir toute perte de vie et d'empêcher les groupes criminels de faire de gros profits en risquant des vies humaines.
Toujours dans un objectif de dissuasion, le gouvernement finance aussi des campagnes sur les réseaux sociaux dans les pays d'origine, notamment au Vietnam. Londres, Emeline Vran, RFI pour France Inter.
En Ukraine, de nouvelles frappes de missiles russes ont visé des infrastructures énergétiques dans trois régions. Quatre centrales thermiques sont gravement endommagées, selon le premier opérateur du pays. La Russie, de son côté, annonce avoir intercepté près de 70 drones ukrainiens, notamment au-dessus de la Crimée. Ils visaient là aussi des sites de production d'énergie. Le blocage est terminé à Sciences Po Paris. Les étudiants pro-palestiniens ont levé le camp hier soir après les annonces de la direction. Elle s'engage à organiser un débat interne et suspend les procédures disciplinaires lancées contre plusieurs étudiants. Ça ne change rien aux efforts que l'on doit faire pour assainir les comptes de la nation. Réaction ce matin sur France Info du ministre de la fonction publique Stanislas Guérini après la décision des agences Moody's et Fitch de ne pas dégrader la note de la France, cette notation qui détermine le taux auquel le pays emprunte sur les marchés financiers. L'objectif du gouvernement est de trouver 10 milliards d'euros d'économies cette année. Et si on arrêtait de changer de smartphone comme de chemise, les eurodéputés ont voté cette semaine un texte pour inciter les consommateurs à faire réparer plutôt que jeter à la fois les téléphones mais aussi les appareils électroménagers, avec notamment la possibilité de rallonger la garantie et l'obligation de proposer une réparation à un prix raisonnable. Bonjour Manon Derdevé.
Bonjour.
Alors ce texte est salué par les professionnels et aussi par les consommateurs.
À l'image de Sarah, pour elle, réparer plutôt que jeter et racheter un nouvel appareil, c'est une évidence.
Aujourd'hui, il y a des téléphones qui sont faits pour que ça dure quelques années seulement. Si c'est un peu plus encadré, je pense que ça irait mieux.
Comme elle, beaucoup de Français ont pris l'habitude de passer par la case réparation. Régis Koenig est le directeur réparation et durabilité chez Fnac Darty. C'est le leader du secteur en France avec 2,5 millions de produits réparés l'année dernière.
Les fabricants avec qui on travaille, ils ont des sièges sociaux en Corée, aux États-Unis, en Chine, et le fait de peser au niveau européen pour un droit à la réparation, c'est une vraie avancée pour que ce qu'on a commencé à initier en France ait un impact encore plus grand et puisse bénéficier à tous les Européens.
Chaque année, dans l'Union Européenne, 35 millions de tonnes de produits qui auraient pu être réparés finissent à la poubelle.
Et si cette nouvelle législation va dans le bon sens, certains, Manon, la jugent encore insuffisante.
Oui, par exemple, s'il y a bien dans le texte l'interdiction pour les fabricants de faire obstacle à la réparation des appareils, selon Flavie Van Der Scher, responsable du plaidoyer à l'association Halte à l'obsolescence programmée, il faut des mesures encore plus contraignantes.
Il faut que les constructeurs mettent sur le marché des produits qui soient réparables. En fait, les pièces détachées sont rattachées au numéro de série du smartphone. Ça empêche de réparer certaines pièces et donc ça, c'est un réel frein à la réparation.
En France, les professionnels du secteur insistent aussi sur le manque de réparateurs. Ils appellent à créer une filière économique avec une meilleure formation, mais aussi une meilleure rémunération.
Merci Manon Derdevé. Article complet à retrouver sur franceinter.fr. Une petite lanterne dorée avec une flamme à l'intérieur, le symbole de l'olympisme. Cette flamme, transmise hier à la France par la Grèce, est désormais à bord du Bélème. Le Bélème qui vient d'appareiller depuis le bord du Pirée, depuis le port du Pirée en Grèce, sous vos yeux, Emma Sarango.
Oui, alors si je plisse les yeux, j'arrive encore à le voir, Corinne, mais il est vraiment très très loin maintenant. Le Bélème qui a effectivement largué les amarres il y a une dizaine de minutes en faisant d'abord une petite marche arrière dans le port du Pirée et puis ensuite en partant vers la sortie du port. Alors vous savez qu'il n'a pas encore largué ses 22 voiles, hissé ses 22 voiles puisque c'est interdit dans le port, mais il va le faire dès la sortie du port puisque la météo est favorable, le ciel plutôt dégagé alors qu'il était nuageux ce matin et le vent portant, ce qui est une bonne nouvelle pour amener un trois-mâts, un voilier jusqu'à Marseille. C'est plutôt de bon augure. Et le départ s'est fait sous les applaudissements d'une centaine de personnes venues ici pour assister avec des petits drapeaux français à ce grand départ de la flamme. La flamme qui est-elle dans cette petite lanterne, vous l'avez dit, dans le grand rouf, la salle principale du Bélème, mais qui, nous a dit le commandant, pourra sortir de temps en temps, prendre un peu l'air méditerranéen. En tout cas, pour l'instant, elle est sous le regard protecteur de Tony Estanguet, qui, ce n'était pas prévu, a décidé de rester un petit peu à bord du Bélème pour veiller encore un tout petit peu sur elle avant de débarquer pour se mettre à préparer les jeux, comme il y a du boulot, 90 jours.
Merci Emma Sarango, on souhaite bon vent et belle mer au Bélème avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Allez, on termine par le crunch au féminin France-Angleterre de rugby cet après-midi à Bordeaux en dernière journée du tournoi des Six Nations. En jeu, le Grand Chelem, un titre qui revient depuis 6 ans aux Anglaises, et les Bleus espèrent renverser la tendance. Fanny Lechevestrier.
Un public qui, sur ce tournoi, les a portés comme jamais, comme il y a 2 semaines au stade Jambon à Paris face aux Italiennes.
Quand on est à 5 mètres de la ligne et qu'on entend tous les supporters dire « Allez, allez, allez !» Quand on entend le « Ouh !» quand t'es à côté de la fille qui fait le grand plaquage, t'es là « Oh, c'est bien !»
raconte la pilier Anaël Dehaye, presque encore surprise par tous ces stades remplis match après match. Son acolyte en première ligne, Assak Alfaoui, se sent elle aussi galvanisée par ces ambiances, si loin de celles que les joueuses connaissent en championnat.
Franchement, ça met les frissons et on se dit « Ok, ben là je vais mettre le coup d'accès pour mon public, parce qu'on est là aussi pour leur montrer qu'on est capable. Moi aussi, j'ai envie de faire lever la foule et se dire « Ah, ils ne sont pas venus pour rien ».
Et au sein du 15 de France, personne n'y voit une forme de pression négative. Au contraire, depuis un an maintenant, les Bleus travaillent avec un préparateur mental qui les aide à évacuer notamment le trop-plein d'émotions. Et ce qui va se passer tout à l'heure au stade Chaban-Delmas, avec donc près de 27 000 spectateurs, soit 9 000 personnes de plus que le précédent record établi l'an dernier à Grenoble. C'est aussi une bonne façon de se préparer à l'objectif final. La Coupe du Monde en 2025 en Angleterre, souligne le co-sélectionneur David Ortiz.
Parce que la Coupe du Monde se jouera sûrement dans des stades pleins et maintenant, je pense que les filles commencent vraiment à s'y habituer. Ce dont on est sûr, c'est que ça sera surtout un supplément d'âme dans notre motivation et dans notre match.
Et si les joueuses ne veulent pas encore se projeter si loin, la tête aujourd'hui à leur rêve de grand chelem face à la meilleure nation du monde, la troisième ligne romane ménagée y voit une première récompense pour ce 15 de France au style de jeu ultra offensif, une prise de risque qui porte donc ses fruits dans les tribunes.
Je pense que ça fait partie un peu de notre petite récompense aussi, c'est qu'on voit que ce qu'on produit, ça plaît aux gens, ça attire les gens.
Et une preuve de plus pour la Toulousaine Gaëlle Hermé que le rugby féminin en France ne demande qu'à grandir.
On sait qu'on a cette mission-là aussi de continuer à faire grandir le rugby féminin et on sait bien sûr que ça passe par nos performances, on en a conscience.
Consciente aussi qu'aller chercher un premier grand chelem depuis 2018 face à l'ogre anglais offrirait une visibilité déterminante à un an et demi du mondial.
France-Angleterre, c'est à 17h45 à Bordeaux.
Ce samedi, Gérard Mancé est dans la balade.
17h, Vincent Josse.
L'ermite de la chanson française est très rare au micro. Il sort un nouveau disque, toujours inspiré, L'Algue Bleue.
Sur la lune, on danse.
La balade.
Tous les samedis sur France Inter, à 17h.
France Inter, partenaire de La Fleur de Buriti, un film de René Nader Messora et Joao Salavizza. Guidés par leurs rites ancestraux et leur amour de la nature, le peuple indigène Crao ne cesse d'inventer de nouvelles formes de résistance. À travers les yeux de sa fille, Pat Pro va parcourir 3 époques clés de l'histoire de son peuple. Un récit vibrant et engagé au cœur de la forêt brésilienne. La Fleur de Buriti, le 1er mai au cinéma, un film France Inter.
10h12 sur France Inter, on aura tout vu. C'est avec Laurent Delmas et Christine Masson.
Merci Corinne. Merci.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Si vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On n'en parle tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
3 humains au sein d'une institution européenne, 3 cœurs battants pour la démocratie et l'état de droit, un sport de combat sur notre affiche ce matin. Bonjour et merci tout le monde, vous êtes désormais 2 millions à nous écouter. Tâchons d'être à la hauteur des résultats de ce scrutin. Salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue aux 2 millions.
À l'origine, un fait réel, Bruxelles 2012, l'affaire Dali avec 2 L, le commissaire à la santé limogé et le combat de José Bové et de ses assistants pour mener l'enquête. Bonjour Antoine Rimbaud.
Bonjour.
C'est votre film, une affaire de principe, un techno-thriller. Face à José Bové, incarné par Bully Lanners, une belle surprise. Bonjour Thomas VDB.
Bonjour Christine, bonjour Laurent.
Très crédible dans ce rôle de justicier, capable, dites-vous Antoine, d'être à la fois nonchalant et hyper vif. À l'écriture, avec vous Antoine Rimbaud, de cette plongée dans le Parlement européen et dans cette enquête passionnante sur le pouvoir et le contre-pouvoir, un scénariste. Bonjour Marc Sirigas.
Bonjour.
À noter la présence aussi dans ce film d'une jeune actrice super, Céleste Bankel. Une affaire de principe sur nos écrans mercredi prochain. Enfin, les sorties ciné de la semaine d'une ville occupée à Amsterdam, un déserteur en Israël. C'est parti.
Tu me fais honte. Tu me fais honte, tu comprends? Tu me fais honte, mais c'est pas grave. Parce que la honte, je connais depuis tout petit. La honte d'être ton fils. La honte d'être le fils d'un ouvrier, puis la honte pour aujourd'hui d'être un étudiant qui a honte d'être fils d'un ouvrier.
Eh, ça, y a pas de quoi avoir honte, hein.
Mais c'est à lui qu'il faut dire ça, c'est pas à moi, c'est lui qui m'a mis ça à la tronche.
Non.
Je serai jamais ouvrier. J'aurai un travail intéressant. Je gagnerai de l'argent. J'aurai des responsabilités. J'aurai le pouvoir. Le pouvoir de te parler comme je te parle maintenant. Le pouvoir de te virer si je veux comme on te vire maintenant. Mais t'as honte, toi. T'as honte, ça, tu me l'as foutu, là. Hein ? Je l'aurai là toute ma vie, ta honte.
Franck Jalil Lesper revient comme cadre dans l'usine où son père est ouvrier à la chaîne depuis 35 ans. Un film sur le déterminisme social, ressources humaines, le premier réalisé par Laurent Cantet, mort cette semaine. Un grand choc. Cantet, cinéaste, citoyen, très engagé dans toute forme de lutte, la lutte classe, comme l'a si justement titré Libération hier, 9 films, dont une palme d'or entre les murs, et jusqu'à ce dernier, Arthur Rimbaud, un cinéaste à la fois doux et révolté, comme l'a écrit Didier Perron, Laurent.
Oui, Christine, un premier film, vous savez, c'est souvent un brouillon, plus ou moins réussi, des rêves d'un cinéaste en devenir. Et avec Ressources humaines, son premier film, donc en 2001, César de la meilleure première œuvre, Laurent Cantet faisait de son coup d'essai un coup de maître, et affirmait d'entrée de jeu sa fibre politique, sociale et humaniste. Il faut dire que son premier court-métrage s'appelait « Tous à la manif ». Pas faire plus probant. Depuis lors, il n'a cessé d'interroger notamment la notion de travail et de ceux qui travaillent. Depuis Entre les murs et plus encore L'emploi du temps, variation ultra intelligente sur l'affaire Roman, jusqu'à l'avant-dernier film sorti en 2017, L'Atelier. Peu de cinéastes français auront à ce point et autant balisé le champ social sans le réduire au champ sociétal. D'autres films ont ainsi montré l'attention que portait Cantet au rapport de classe. On songe au très vénéneux Vers le Sud, adapté de l'écrivain haïtien Dany Laferrière, ou bien encore au trop méconnu Foxfire, confession d'un gang de filles, réjouissant brûlot féministe bien avant MeToo. Et puis comment ne pas citer Retour à Ithac, merveilleuse réflexion mélancolique et lucide sur les utopies dévastées. Au total, 8 films, 8 seulement en 23 ans. On enrage de cette filmographie brutalement interrompue. Il est de toute évidence que le regard de Laurent Cantet va manquer au cinéma hexagonal et au cinéma tout court, à ces films du milieu que défendent et créent les alter-ego générationnels de Cantet, que sont Pascal Ferrand, Patricia Mazui, Robin Campillo, Dominique Moll et Gilles Marchand, entre autres. Il faut décidément voir et revoir les films de Cantet porté, on ne l'a pas dit encore, par un style sobre, précis, élégant, comme il l'était lui-même dans la vie, avec en prime une incroyable gentillesse et une générosité à toute épreuve.
La Cinéthèque qu'il a cofondée, d'ailleurs, lui rend hommage à travers quelques films et quelques chaînes de télévision aussi.
Chaque fois que je fais un film, c'est pour essayer aussi de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas beaucoup. C'est aussi peut-être pour, et dans le cas de L'Atelier, pour marquer, pour prendre en compte ce fossé qu'il peut y avoir entre moi peut-être et ces jeunes gens, entre les gens qui ont les armes pour affronter ce monde et d'autres qui en ont moins ou qui en ont d'autres qu'on ne comprend pas forcément bien. Et oui.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Bonjour Constance.
Bonjour Clémence. Clémence Lukovic.
Clémence, désolé. Fabrice, enchanté. Ton badge passe pas, c'est ça?
Mais si après je me fais contrôler?
Non, on n'est pas dans le métro, on ne se fait pas contrôler ici. Bon, alors t'auras qu'à dire, appelez José Bové. Ah, c'est un labyrinthe ici, tu verras. Moi je pars dans un an, j'aurais pas encore réussi à trouver le souterrain. Parce qu'il paraît qu'il y a un souterrain.
Monsieur Bové ne se représentera pas?
Ouais, fais ce qu'il veut, moi je remplirai pas. J'en ai marre. Pardon, je devrais pas te dire ça. Cette semaine, c'est surtout Michel qui va te briefer sur notre dossier en cours. Nous, on sera avec José à Marseille. Sur les écrans, il marque toutes les réunions de la semaine, tu peux checker ce qui nous concerne. Mais t'inquiète, nous non plus, on comprend pas tout.
C'est quoi les réunions qui vous concernent?
Ouais, tout ce qui touche à la PAC. L'EFSA, le CETA, le BCAO, le COPACOGECA. Ouais, j'espère que t'aimes bien les acronymes, quoi.
Bienvenue au Parlement européen grâce à cette visite express à une jeune stagiaire, Clémence et Céleste Brunkel, par Fabrice et vous, Thomas VDB, assistant parlementaire de José Bové Bouly-Lanners. Nous sommes en 2012. Je le disais, quand le commissaire à la santé, John Daly, vient d'être limogé dans la plus grande opacité, même si c'est son opposant politique, José Bové va mener l'enquête avec ses assistants. Ils vont alors découvrir un complot menaçant de déstabiliser les instances européennes. Avant de revenir sur le fond de l'histoire, Antoine Rimbaud, revenons au titre, une affaire de principe. Quel principe ?
Le principe du droit et de la démocratie, c'est l'enjeu majeur du film. On ouvre sur le vertige au moment du vote d'une directive anti-tabac. Et puis on fait un flashback pour savoir tout ce qui s'est passé dans les coulisses de ce vote. Et pour découvrir des choses qui font un peu mal sur les dysfonctionnements des institutions. Et ce qui a mu José Bové dans cette affaire, c'est vraiment le respect de la règle.
D'ailleurs, il dit à la jeune stagiaire, il lui dit la justice, c'est pas le droit.
Ouais.
Et Marc Sérigas hoche la tête, ça c'est un dialogue que vous avez trouvé tous les deux, enfin, je veux dire, c'est important de déterminer ça dès le début, pourquoi vous sauriez
parce que c'est, alors, ça fait partie des obsessions d'Antoine Rimbaud.
Mais... vous êtes contre.
Voilà, je trouve ça intéressant. Non mais c'est aussi à la suite des discussions avec José Bové qu'on a écrit ça, parce qu'en fait on a commencé à écrire et à un moment on s'est dit bon on va aller le voir quand même pour discuter avec lui,
pas mal.
Voilà, voilà, voir de quel bois il se chauffe, donc il en a plein dans son jardin. Okay. Et bon, il est vraiment sympa quoi. On a passé du temps au Larzac, donc voilà, on a discuté avec lui, il nous a appris plein de choses et puis il nous a fait rire aussi beaucoup, donc on s'est aussi peut-être un peu plus autorisé à aller vers un peu de comédie parfois, parce que le personnage est truculent, on va dire.
Oui.
Enfin, il est intelligent, il est drôle, il est voilà. Donc, c'est le moment aussi où pour des auteurs, enfin des scénaristes,
oui,
on est tous les deux, c'est le moment où une personne devient un personnage, quoi. Mmh. Ça, c'est et ça, faut le choper au vol, ce truc-là. Faut et bon, voilà. Et José nous a quand même beaucoup aidé à ça, quoi.
Thomas VDB, vous l'avez rencontré, Bové?
Ah oui, je l'ai rencontré. Je l'ai pas rencontré avant le film, comme ça a été le cas pour Antoine et Marc, qui donc du coup ont écrit à partir de leurs entretiens avec José. Moi, je l'ai rencontré au deuxième jour du tournage. C'est assez drôle parce qu'en fait, Bully Lanners était un petit peu intimidé à l'idée de chausser les chaussures de José Bové.
Et
il savait que José allait venir pendant le tournage, mais en fait, José Bové, je pense assez impatient de voir comment ça se passait. Arrivé le deuxième jour du tournage.
Non, il est arrivé le premier jour du tournage, mais je lui ai dit, tu restes à l'hôtel.
Et tu ne viens que demain. Et donc, du coup, Bully Lanners était voilà, en train de jouer sa scène et il voyait José Bové qui était penché sur le combo à l'arrière en train de dire, ah bah, c'est super ça, disons, c'est super. Et donc, évidemment, c'était assez intimidant.
C'est assez transgressif, effectivement, que le personnage.
Mais oui,
principal,
ouais, mais oui, c'est troublant. C'est très troublant. Ouais.
Alors, quand même, il faut préciser que Bully avait rencontré José sur le plateau du Larzac. Ce film a été pour moi des occasions sans cesse renouvelées d'aller voir José et pour passer un week-end sur le plateau du Larzac.
Comme le film précédent, je trouve que ce film, il aurait aussi pu s'appeler Une intime conviction, celle de José Bové.
Oui, parce que lui, il est opposant politique à ce fameux John Daly,
ouais,
qui est commissaire européen à la santé.
On va écouter bientôt le résumé de l'histoire, ouais.
Voilà, il l'a combattu vraiment sur beaucoup, beaucoup de terrain. Mais et effectivement, il ne croit pas du tout à son éviction et à sa tentative d'aller d'initier. Il n'y croit pas, quoi. Voilà, c'est une intime conviction au départ, effectivement.
On va écouter cet extrait.
Le commissaire à la santé de la Commission européenne est accusé de compromission avec le lobby du tabac. D'après l'OLAF, l'Office européen de la lutte antifraude, John Daly était prêt à monnayer son influence pour modifier la future directive anti-tabac dont il était en charge.
J'aimais bien me coller avec Daly, moi. C'est un conservateur, mais au moins il fait pas semblant, lui.
Et sur la viande clonée, il n'a pas fait semblant.
Ah mais ça, au moins, c'est idée contre idée. Il a le mérite d'être franc.
Ah, il a peut-être franchement tapé dans la caisse. Hein.
Non, mais c'est bizarre, quand même. Ça fait 2 ans et demi qu'il a rebooté sur sa directive. Son père est mort d'un cancer des poumons, ça tient pas à la route.
Ce qui est intéressant, Marc Sérigas, scénariste de ce film, Une affaire de principe, c'est que Bové, c'est pas du tout l'ami de Dali.
Non, c'est pour ça que c'est une affaire de principe.
Ben voilà.
Oui, c'est un adversaire politique.
Ouais, bien sûr,
mais nous, on voulait parler de démocratie, et c'est vraiment un mot qui revient beaucoup dans la bouche du vrai José et du José de cinéma. Enfin, là, c'est quelqu'un qui se bat, on connaît la phrase, pour que les opinions de ses ennemis soient aussi audibles.
Entendues.
C'est ça, donc c'est vraiment ça. Et c'est encore plus intéressant d'ailleurs que ce soit un ennemi politique.
Oui.
Il y a des scènes d'ailleurs qui développent ça dans le film. C'est vraiment, c'est pas son pote, hein. Ils se sont, mais ce qu'il a flairé dans l'histoire, c'est qu'il y a eu un licenciement abusif. Un truc qui était absolument pas normal, et voilà, et avec un flair de limier, et là on entre un peu dans la fiction, il s'est dit il y a un truc à déterrer là, donc ils sont allés chercher après, et donc on est dans le film d'enquête en fait. Là, c'est un film qui est quand même bordé, c'est un film d'enquête.
Hein, oui, mais comment faire de ce monument froid tout d'un coup trois humains qui entrent là-dedans, c'est compliqué hein, parce que quand on lit le bouquin dont c'est adapté, le fameux l'affaire et le chapitre, comment faire un truc un peu attrayant quoi finalement. vraiment entendre Rimbaud.
Eh ben, en se cramponnant à ce projet de cinéma de film d'enquête et en ne sacrifiant rien au rythme. C'est le rythme qui nous a gouvernés dans l'écriture, je crois dans le jeu aussi, on cherchait le tempo, et puis jusqu'au montage où on a énormément coupé, resserré, et en cherchant de la forme, et en cherchant du cinéma. Et moi, je dis souvent que j'ai toujours besoin, en tant que spectateur, qu'il y ait toujours une balle en l'air à la fin de la séquence pour que la suivante reparte. Donc voilà, on cherche... une forme de thriller, de cinéma.
C'est un très beau cas d'école, hein, de l'adaptation, parce que le texte original qui est publié aux éditions La Découverte, c'est assez lourd, pesant à lire. Hein. Vous avez fait vraiment un superbe travail d'adaptation et de fiction, précisément.
Thomas Védébé, vous l'avez vécu comme un inspecteur, cet assistant parlementaire, parce que c'est une enquête qui est très compliquée. Vos armes, c'est quoi? C'est un portable, c'est une photocopieuse, enfin, je veux dire, c'est...
Oui, ben c'est ça justement, comme un inspecteur. C'est ça qui est très inspirant dans ce rôle, dans le fait de jouer un rôle. Je joue Jean-Marc Desfiles, le personnage qui est le vrai assistant parlementaire de José Bové, dont je joue le rôle dans le film. C'est quelqu'un qui est arrivé de la Confédération paysanne à la base. C'est pas des gens qui avaient prévu de faire de leur vie de la politique et qui se retrouvent à tirer les fils de cette enquête pour essayer de comprendre cette anomalie de José Bové qui veut défendre son adversaire politique. C'est ça que j'ai trouvé hyper cinématographique et presque épique. Moi, l'idée de ce gars qui veut défendre son adversaire politique, alors qu'en plus il n'est pas là du tout. À la base, il est là pour faire voter la politique agricole commune, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment une digression dans sa carrière. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il tourne la tête et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce fil que je suis en train de tirer? Et il se retrouve à mener cette enquête. Donc finalement, il y a une référence qu'on avait beaucoup pendant le tournage. On se disait, mais c'est ni des enquêteurs, c'est ni des hommes politiques, c'est juste des gars qui arrivent de la Confédération paysanne et qui essaient de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, donc avec cette histoire avec John Daly. Et donc c'est marrant de prendre l'enquête par le dessous, en fait, de se dire on est juste un personnage qui à la base lit des dossiers, il fait des amendements sur des textes de loi, et il se retrouve finalement, donc oui, c'est un enquêteur un peu malgré lui finalement.
Mais Marc Sérigas, il a fallu faire beaucoup d'enquêtes quand même à travers. Bon, il y a le cas, mais il faut savoir comment ces types-là vont aller dans les commissions, etc. Vont retrouver le Dali à Malte, etc. Ah, vous voyez.
Non, mais alors on a lu, on s'est fait piloter aussi. Hein.
Ouais.
Jean-Marc, pour le coup, était notre Sherpa. Bon, on a vu José Bové aussi. Là, on s'est renseigné, on a discuté avec des gens, et puis à un moment, on a aussi inventé du récit. Hein.
Oui.
À un moment, il faut raconter, il faut mentir pour dire la vérité. Quoi. Et voilà. Mais ce qui nous amusait dans le projet, c'était aussi que déjà, c'était pas, comme disait Thomas, c'était pas des flics, c'est pas des journalistes qui mènent une enquête, c'est pas des privés, parce qu'en France, il n'y a pas de détectives privés.
Et c'est pas les hommes du président,
sur voilà. C'est ça. Donc, on est sur une mythologie qui n'est pas la même en France.
Voilà.
Mais on a des hommes politiques. En France, on aime bien la politique. Oui. Donc, on a des hommes politiques qui mènent l'enquête, quoi. Et donc, là, c'était vachement intéressant parce qu'ils ont très peu d'armes, en réalité. Là, ils ont quoi? Ils peuvent faire des questions parlementaires, ils peuvent faire des conférences de presse, ils peuvent, secouer le cocotier, attendre que ça repasse. Donc, à un moment, il y a José qui dit une phrase vexante qui va faire que quelqu'un va l'appeler pour lui donner un renseignement, etc.
Ouais.
Et c'est ça. Et ça, c'est très proche de la réalité. Mais c'est drôle parce que ce sont des contraintes pour des auteurs.
Mais on aime bien ça.
Et ce qui est bien aussi, c'est que vous amenez, grâce à Thomas Védébé notamment, de l'humour, et notamment cette scène très importante à la cantine où Bové fait un lobbying particulier.
Tiens, regarde José, il fait du porte-à-porte, on dirait un VRP. Là, il leur dit, mais enfin, il faut absolument demander une commission d'enquête sur Dali. C'est un scandale. Barroso s'est encore surpassé dans l'autoritarisme. Sauf qu'il convaincra personne.
Et pourquoi pas?
Tous les mecs de droite flippent. Ils regagnent leur pompe. En même temps, t'imagines les conséquences pour eux et pour leur carrière. S'ils se mouillent pour Dali et qu'il est vraiment coupable.
Et José, sa carrière?
Ils sont fous, lui. Ce qui l'intéresse, c'est le pas de côté. Tiens, il va aller à gauche maintenant, regarde. Alors là, c'est l'inverse, il se frotte les mains. Enfin, José, c'est très bien qu'un type de droite se soit fait virer. Où est le problème?
Non, non, ils disent pas ça, ils parlent de foot. De Laurent Blanc qui a renié ses principes. Je sais lire sur les lèvres.
C'est vrai?
Bah non, c'est une blague. Tu déconnes. Et toi, t'as fait quoi comme étude? Sciences Po?
Oula, non. Je suis ingénieur agronome.
Ah bon? Et comment t'es arrivé ici?
José nous a ramenés dans ses bagages avec Michel. On se connaît depuis 20 ans. De la conf, en fait.
La conf?
La Confédération Paysanne. On est des syndicalistes, nous, là-bas.
Il n'y a pas d'image à la radio, mais je vous raconte juste ma VDB en train d'écouter très sérieusement la scène.
Oui, je ne me juge pas, mais je suis là. Je vous laisse écouter, en tout cas. Oui, c'est vrai.
Comment vous vous trouvez? Nous, on vous trouve très bien, mais comment vous vous trouvez?
Déjà, moi, ça ne m'est pas arrivé beaucoup dans ma vie qu'on m'appelle pour un tel film, pour un film avec un tel enjeu. Et en fait, je vais vous le dire très franchement, je me trouve bien parce qu'en fait, j'ai juste à incarner à quelque chose quand le film est tellement écrit avec, enfin ça relève de l'orfèvrerie, hein, de vouloir faire un film qui soit à la fois dense en information. Donc là, je félicite Marc et Antoine qui m'entourent de chaque côté, parce que en fait, il m'avait prévenu dès le début. Antoine, il m'a dit, je veux faire un film avec des gens qui marchent dans des longs bureaux de façon hyper préoccupée avec des gros dossiers sous le bras. Donc pour ça, le film est vraiment, on est dans les clous, quoi, vraiment. Mais en même temps, l'histoire est tellement ficelée que c'est très facile finalement de se glisser dans un personnage quand l'intrigue est aussi bien déroulée, quoi. Donc c'est pas dur de se trouver bon quand le film est si bien écrit finalement.
Antoine Rimbaud, vous aviez repéré Thomas VDB dans un très joli film d'Olivier Jahan qui s'appelait Claire Andrieux sur Arte.
Oui.
Et vous avez donc découvert cette fibre qu'il peut avoir.
C'était tout d'un coup un autre endroit que celui où je le connaissais de ses spectacles et de ses chroniques. Il était hyper touchant, hyper juste. C'était un second rôle, mais il avait la charge de la voix off sur l'histoire.
Oui.
Et je le rencontre, Thomas, à l'issue de la projection de ce film Arte, au moment où on est en train d'écrire encore. Et donc, voilà, je me dis, tiens, c'est pas inintéressant. Et puis c'est toujours rafraîchissant aussi de proposer aux spectateurs autre chose, quoi.
C'est-à-dire
un alliage de comédiens qu'on n'a pas encore vu.
Quand vous dites nonchalant et à la fois hyper vif, mais c'est vrai, c'est une bonne définition de...
Il y a de ça. Il y avait un peu, comme ça, en sous-texte de son personnage, l'idée un peu du découragement. Il est quasiment bipolaire. Ouais. Et donc on commence, il en peut plus, il veut raccrocher, il y croit plus, quoi. Il a perdu sa foi, quoi. Et puis ça va être un peu revitalisé, quoi, par un personnage, un ancien amour du côté de la commission.
Oui, on a même une comédie romantique, Thomas VDB, en supplément.
Comédie romantique, peut-être je ne sais pas, mais jusque-là, mais...
Il y a des affects, quoi, voilà. Et puis aussi par cette jeune stagiaire qui vient les bousculer. Et donc j'aimais bien l'idée qu'il se réveille, que tout d'un coup, il saute sur le cheval de l'enquête et il lâche plus, quoi. Et
non, mais c'est difficile, c'est compliqué quand on est quelqu'un comme vous qui fait rire sur scène, dans vos sketchs, etc. Et tout d'un coup, il y a cette part-là où on se dit, c'est crédible, on rit pas, enfin, je veux dire, vous voyez.
Alors, pas vraiment, parce que dans un sens, moi, par exemple, mon dernier spectacle que j'ai joué, qui s'appelle Thomas VDB, sa climat, je parle beaucoup d'écologie, et donc dès qu'Antoine m'appelle pour me parler d'un film qu'il a écrit sur José Bové, je trouvais que ça avait du sens quelque part, parce que José Bové, il est précurseur des préoccupations, en tout cas, qui sont les miennes, qui sont les nôtres de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, et donc je trouvais que ça avait du sens de me trouver dans cette histoire, et ça aide à se sentir légitime, en tout cas, de se dire, tiens, je vais jouer l'histoire de l'assistant parlementaire de José Bové.
Et parler anglais?
Parler anglais, à partir du moment où Antoine nous dit, c'est pas grave si vous avez un petit peu l'accent français, je me suis dit, ça va être dans mes cordes, alors. Il voulait vraiment que, effectivement, José Bové, je crois qu'a un vocabulaire irréprochable en anglais, mais il a un petit peu l'accent du Larzac, quand même.
C'est le propre du parlement anglais.
Vous pouvez le refaire, l'accent du Larzac?
Non, mais il speaks English very much like this, quoi.
Oui.
C'est du globish, on appelle ça du globish, l'anglais du Parlement, qui est pas très clair pour les Anglais eux-mêmes. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils sont partis. mais effectivement, tout le monde parle son anglais avec son accent et on se comprend et on se débrouille, quoi. C'est plus accessible pour les spectateurs français, à mon avis.
Bové, c'est un peu Astérix et Tintin.
Le capitaine Haddock.
Ouais. Si on...
oui, un peu, il y a de ça. Il y a un côté aventure, Tintin au Parlement. Et puis Astérix, parce qu'effectivement, il aime mordre les mollets des puissants. La castagne.
On se dit, qu'est-ce qu'il faisait là, en fait? C'est terrible d'avoir un type pareil dans une institution aussi froide, glaciale.
Oui, mais il a poursuivi son travail et son combat en tant que syndicaliste.
Il faudrait qu'il en ait des centaines de types comme lui.
Oui, il y en a encore quelques-uns, je pense, au Parlement. Par exemple, j'ai appris par José, quand il a eu cette bonne idée de bloquer l'hémicycle européen pour faire grève avec les traducteurs, qu'il avait ramené avec lui des députés anciens syndicalistes. Il y a donc d'anciens syndicalistes qui sont députés européens. Il a toujours lutté pour le droit. José Bové, avec le droit et pour le droit, y compris quand il a popularisé l'enfermement militant. Mais c'est pour faire avancer le droit, nos droits à nous tous. Et donc c'est un terrain très logique, en fait, de poursuivre ce combat-là au Parlement européen.
Quand il va haranguer, on va entendre l'extrait, Marc Sérigast, c'est des trucs que vous inventez, ça. Quand il va choper dans les couloirs, par exemple, le président de la Commission européenne, Barroso, ouais, ou le commissaire Martin Schulz, c'est une très forte scène, d'ailleurs, complètement inventée.
Complètement. S'ils se sont parlé sûrement, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est d'en faire un peu du cinéma, quoi.
Là, on dirait que
voilà. En plus, après, c'est filmé. En plus, c'est que le plan, pour le coup, c'est Antoine qui l'a inventé. Le plan, quand il arrive, il fait peur.
Ce qui est important, c'est de raconter que l'Europe, que l'Union européenne, c'est à la fois le président de la Commission, José Manuel Barroso, et un député parmi les 700 qui lâche pas l'affaire. Voilà. Ouais. Et c'est cet affrontement qui structure
Mais c'était important, effectivement, de raconter que, parce que c'est un motif qui revient après à la fin du film, c'est qu'ils se regardent dans les yeux, il y a des éclairs qui passent dans leur regard mutuellement aux deux, quoi. Et donc ça, on le voit au début, c'est la déclaration de guerre, c'est ce qui donne l'objectif à Bové d'aller, comme il dit, les faire chier. Et à la fin, on va avoir le paiement de ça, quoi. On va avoir le regard entre eux qui va être horrible aussi.
Écoute, Joseph, des règles très claires ont été mises en place et Dali ne les a pas respectées.
Rien n'est clair dans cette histoire.
Maintenant, il faut laisser la justice maltaise faire son travail.
La transparence, c'est la base. Je demande pas la lune non plus. Mais le minimum, ce serait quand même d'ouvrir une commission d'enquête spéciale.
Je ne peux pas te suivre là-dessus, Joseph. J'aurais l'air d'être de parti pris. Et je ne peux pas déjuger le président. Tu le sais bien.
Martine, la commission doit rendre des comptes au Parlement, point barre. C'est le principe même du fonctionnement démocratique. Et Barroso, je suis désolé, il doit respecter la règle comme tout le monde.
Qui êtes-vous, monsieur ?
José Bové, Europe Écologie.
Ah oui, c'est vous. C'est terrifiant, votre populisme. Que plus c'est pour un député.
Pardon ?
Mon quoi ? Vous m'avez très bien entendu.
Non, ce qui alimente le populisme, monsieur le président, c'est votre autoritarisme. Et cette opacité que vous entretenez, qui font naître les pires fantasmes du tous pourri chez les citoyens.
Merci pour votre cours de civisme, monsieur le député. Nous avons du travail.
Antoine Rimbaud, l'impression que quand on entend jouer Bully Lanners, c'est vraiment sa cause aussi.
Ah bah c'est un excellent acteur que vous répondrez. Mais c'est vrai qu'il est... Il est, par exemple, ça se sait peu, mais en Belgique, tout le monde est au courant, il est très investi contre le nucléaire.
Ouais. Voilà.
Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup descendu dans la rue et qui porte des convictions qui se connectent assez bien au personnage.
On a l'impression que c'est aussi un frère avec vous, Thomas VDB.
Un frère, je sais pas, dans le film en tout cas, c'est sûr que José et Jean-Marc, les deux, sont vraiment des frères. C'est donc Jean-Marc, de qui je joue le rôle, est encore au Parlement aujourd'hui, mais je crois qu'il s'envoie des textos 5 fois par jour avec José Bové depuis.
Un petit côté vieux couple, ouais.
Vraiment vieux couple par texto en tout cas. Et ben en tout cas, voilà, je disais que pour moi ça avait du sens de jouer quelqu'un qui a travaillé avec José Bové. Je pense que ça a autant de sens pour Bully Lanners d'incarner José Bové. Et je pense que c'est pas un hasard si Antoine nous a choisi. Il y a une histoire de contexte dans lesquels on se sent tous les deux légitimes. Et effectivement, la rencontre avec Bully Lanners, bon, c'est un peu enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais c'est un être humain extraordinaire, extrêmement généreux, intelligent, drôle et tout ce qu'on veut. Donc le tournage avec lui, ça a été vraiment du bonheur.
Marc Sérigast, le poison de l'Europe, c'est les lobbies, on peut le dire ?
Largement, oui.
Ouais. 15 000 lobbyistes à Bruxelles pour 766 députés, j'ai vu ça dans le livre, 20 par élu.
Oui, non, c'est fou, c'est complètement dingue. Ben, le chiffre est parlant, quoi. Ça dit que les députés qui n'ont pas trop envie de bosser, ben, on leur mâche le travail, on leur donne les éléments de langage. On leur donne voilà. Bon, il y en a heureusement beaucoup qui ont quand même des convictions. Nous, on voulait aussi réhabiliter le travail de député. Hein. C'était un peu, bon, c'est un peu prétentieux dit comme ça, mais on voulait aussi avoir des héros qui étaient des députés, des élus de la nation et de l'Europe. Et on voulait pas du tout cracher sur les députés. Mais effectivement, il y a ceux qui se battent contre les lobbies, ceux qui vont les déterrer et ceux qui se laissent faire. Quoi. Nous, les nôtres, ils se battent contre les lobbies.
Oui, Bové, dans le livre, il dit l'idée est de s'en méfier tout en étant obligé de faire avec. Ouais. Mais c'est hyper compliqué, ça.
Il faut des règles. Il faut des règles de transparence et c'est la bagarre. C'est évident, hein, la démocratie, c'est pas un état de fait. C'est un combat, un équilibre des forces entre des pouvoirs et des contre-pouvoirs avec les meilleures règles du jeu possible qu'il faut améliorer en permanence.
Cette affaire le tabac, c'est important. C'est très symbolique, le tabac, non ? Alors, c'est comme le film américain qu'il y avait eu là sur comment ça s'appelait, Russell Crowe.
Oui, révélation.
Ouais, révélation.
Ouais. Qui est un chef-d'œuvre. On est un peu loin de ça parce que c'est très solennel et très sérieux. Nous, c'est un peu marrant. Mais oui, le tabac, disons que c'est un lobby très identifié comme étant une industrie qui empoisonne ses consommateurs. On a bien compris ça là maintenant. Ça a mis quelques années avant qu'on comprenne tous. Donc, c'est intéressant. Il y a plein d'autres lobbies. Cette affaire, on pourrait en déduire plein d'autres. C'est-à-dire que ce combat-là, c'est-à-dire celui de la transparence contre les intérêts particuliers des lobbies, l'intérêt général face à l'intérêt privé, on le retrouve dans tout un tas de domaines, évidemment. Et pourquoi les lobbies sont là? Pourquoi ils vont continuer à s'inviter autour de la table des négociations? Parce que le pouvoir est là, tout simplement.
Ils sont intéressés au film?
Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle, non.
Mais même en amont?
Non plus, rien. On a... Non.
Votre image de l'Europe, tous les trois, elle a changé entre avant et après?
Moi, j'ai appris énormément de choses, et notamment aux côtés de José Bové, qui nous a rejoint dans la tournée, dans les échanges avec le public, et qui est un extraordinaire pédagogue. Donc, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas des institutions européennes et du droit constitutionnel européen.
Il a fait beaucoup d'avant-premières, Thomas VDB, José Bové.
Ouais, il a fait toute la tournée, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il est plus doué que moi pour parler des institutions européennes. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. Et j'en ai jamais autant su dans ma vie qu'aujourd'hui, depuis que j'ai fait le film. Mais c'est vrai qu'avant, c'était pas un truc. Moi, la Commission et le Parlement, c'était pas des trucs dans lesquels j'étais trop calé, quoi.
Marc Sega, c'est presque un petit manuel avant de voter, ça, sans du tout s'impliquer dans un parti ou un autre, parce que attention. Mais c'est vrai que c'est très intéressant avant les élections, ça.
Et puis c'est motivant.
Ouais.
On espère. Enfin. Décortiquer un petit peu, nous on a appris évidemment en écrivant aussi, et voilà, c'est effectivement quelque chose d'un peu compliqué, mais c'est pas impossible que la démocratie y gagne quelque chose. C'est voilà, il y a des façons de faire bouger l'Europe, etc. Donc après, faut voter en son âme et conscience. Et c'est, je pense que justement, ça donne plutôt envie d'aller voter, moi.
Ce qui est pas mal vu le taux d'abstention.
Voilà, ouais.
Ouais. Essentiel. Ouais.
Alors, ces trois personnes enquêtent beaucoup, mais se désespèrent aussi, sont un peu dévitalisées et seulement ils vont être vraiment regorgés d'enthousiasme grâce à cette stagiaire incarnée par Céleste Brunkel.
Bon, Papa Schulz enterre l'idée d'une commission d'enquête. En même temps, c'est pas une surprise. Le rapport de l'OLAF est sorti, il va plus se passer grand chose.
On a fait tout ça pour rien?
Bah non. Non. Ben, il va pouvoir se défendre maintenant. C'est ça l'essentiel.
C'est pas Danny le plus important. C'est la justice. Barroso et Kessler sont même pas inquiétés, alors que franchement, il devrait y avoir une procédure pénale avec tout ce qu'on a trouvé.
Mais non, t'es un vrai gauchiste, toi. Hein.
Bah quoi?
Tu veux écraser ton adversaire, le battre à plate couture. C'est pas ça, la démocratie.
Mais il y a eu mensonge. Ils ont caché plein de trucs, ça pue le complot. T'es d'accord, non?
Ben ouais, mais comment tu fais pour identifier les donneurs d'ordre? Qui tire les ficelles? Qui a prévenu Barroso?
Bah, faut continuer à chercher.
On n'aura jamais de preuves.
Sérieusement? Vous allez pas lâcher comme ça?
Mais qu'est-ce que t'as? On a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre non plus. Faut pas prendre ces choses-là comme ça trop personnellement.
Mais c'est personnel si on y croit.
Non?
Si.
Non. Faut choisir ses batailles, c'est tout. Si on prend trop de coups, on n'est plus là pour les combats importants.
C'est bien excuse de lâche, ça. Vous vous en foutez de la justice. Alors, la règle de droit, vous avez que ça à la bouche, mais c'est à cause des gens comme vous que Barroso et les autres gagnent toujours à la fin.
À la fin, Antoine Rimbaud, est-ce que ce film, ce ne serait pas l'idée de dire « il ne faut pas désespérer de la politique » ?
Ah bah, très clairement, c'est évidemment là où on va. Ce qui est passionnant, là, en réentendant cet extrait, c'est que c'est des affaires très longues. Hein. La justice, c'est lent, c'est compliqué. José Bové dit souvent que ça prend au moins 10 ans, ces combats. En début de semaine, là, il y a eu un rebondissement judiciaire, le début d'un rebondissement judiciaire assez extraordinaire. Le directeur de l'OLAF, l'Office de lutte antifraude, qui se surnomme parfois le FBI européen, qui s'appelle Giovanni Kessler, donc le directeur de l'OLAF de l'époque, dont on parle beaucoup dans le film. On l'a immortalisé dans le film, dans la position qu'il a tenue pendant 12 ans, qui consiste à dire « je n'ai rien fait de mal, j'ai fait mon boulot, j'ai pas de compte à rendre ». Il a fini par être poursuivi, il a perdu son immunité en 2016, ça prend ce temps-là. Il a été poursuivi, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis pendant le tournage du film. Ce qui faisait nos affaires. Ça donnait un peu raison à l'intuition politique de José Bové. Et son appel, puisqu'il a fait appel, évidemment, de cette condamnation, parce qu'il a perdu la fin de son immunité à cause de cette condamnation, et donc au cours de son appel qui avait lieu ce lundi. Voilà. Mm-hmm. Parfois, la justice met du temps, mais il a dit, OK, j'ai un peu déconné, mais il faut que je vous dise qu'en fait, c'est le président José Manuel Barroso qui m'a convoqué dans son bureau et qui m'a demandé de prendre en charge ce dossier personnellement. Ça, c'est absolument illégal. Que le président de la commission convoque le directeur de l'OLAF, qui est un organe indépendant, c'est juste pas possible pour le droit. Alors évidemment, on n'est pas encore rendu, mais c'est très intéressant de voir que, de manière concomitante à la sortie du film, ça avance. Voilà. Moi, j'ai toujours besoin d'avoir à peu près 10 ans de recul pour m'autoriser à aller faire un film de cinéma. Et parfois, voilà, c'est un temps long.
Ce film s'appelle Une affaire de principe. Il sort mercredi prochain. Il est réalisé par vous, Antoine Rimbaud. Il est écrit avec Marc Sirigas. Et on retrouve Thomas VDB, Bully Lanners et Céleste Brunkel. Thomas VDB, on le retrouve aussi ce soir. Il ne quitte pas l'antenne, Thomas VDB, pour la Radio 2.
Oui, absolument. Je viens à quelle heure, c'est de la musique.
À 21h.
21h. C'est enregistré, donc l'heure que vous voulez.
Mais non, faut pas le dire. On se retrouve pour les sorties après Clara Isée, L'Étoile.
Il m'a promis qu'il y avait une étoile pour chacun dans le ciel et que si tu l'appelles, elle t'accompagnera. Toi qui encaisse les coups, si un jour tu décides de t'offrir au vide, tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles. Tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles. Si la mer te ravit, tu régneras sous les eaux cristales. Si un jour perdu je t'appelle, tu me protégeras. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'enfuir au vide, tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles. Tu seras mon étoile. Je hisserai les voiles. Toi qui encaisses les coups, si un jour tu décides de t'enfuir.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Laurent, on va parler.
Oui, Christine.
On était en pleine discussion.
Pas du tout.
Pas du tout. On va commencer les sorties de cette semaine avec un film au thème assez passionnant. C'est Le Déserteur de Danny Rosenberg. Shlomi, un soldat israélien de 18 ans, fuit le champ de bataille pour rejoindre sa petite amie à Tel Aviv. Errant d'une ville à l'autre et à la fois dans une ville à la fois paranoïaque et insouciante, il finit par découvrir que l'armée, à sa recherche, est convaincue qu'il a été kidnappé. Le Déserteur a été tourné bien avant le 7 octobre, bien sûr. Danny Rosenberg écrit le film pour se confronter à cette réalité, dit-il, refoulée de l'occupation et celle du fanatisme religieux qui ne cesse de gagner du terrain en Israël et en Palestine, entre burlesque et drame. Une histoire racontée dans un rythme effréné sur du free jazz et pour évoquer une jeunesse qui refuse la guerre.
Oui, alors il y a au centre du film un acteur qui s'appelle Ido Taco, il faut le citer d'entrée de jeu, parce que c'est une sorte de corps qui ne cesse de courir, de manger, d'embrasser, bref, de vivre, d'éprouver la vie, la sensualité comme un mouvement perpétuel, donc d'être exactement à l'inverse de ce que l'armée, le gouvernement, l'État israélien lui demande d'être, c'est-à-dire un jeune homme militarisé, soldat dans le rang, ce dont il ne veut plus. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que paradoxalement, il n'y a pas un grand contenu politique du film, c'est-à-dire c'est pas un brûlot contre le gouvernement Netanyahou, etc. C'est beaucoup plus une réflexion sur qu'est-ce que c'est que cet État qui perd sa jeunesse à force de vouloir l'embrigader et l'enrôler dans un processus comme ça permanent. Donc, il y a une contre-proposition de liberté, d'incroyable énergie de ce personnage, et ça donne un film au diapason, un film avec un cinéma proprement à l'état pur dans son énergie.
Occupy City de Steve McQueen, un voyage de 4h26 entre le passé et le présent d'une ville, Amsterdam, entre la ville occupée par les nazis et celle que filme le cinéaste anglais en 2020, et en pleine pandémie, entre sa capacité de résilience et sa volonté d'oubli.
Oui, alors on ne ressort pas indemne des 4 heures et quelques que dure ce film, mais on en ressort, en tous les cas, ça a été mon cas, circonspect. Et dans un état de doute assez comparable à celui que m'avait laissé la zone d'intérêt récemment. On comprend évidemment le propos de ces grandes installations cinématographiques, parce que je pense que ce sont des grandes installations cinématographique.
Il vient de là, d'ailleurs.
Absolument. Mais bien entendu, vous avez raison de le rappeler, et il continue à en faire. Qui se veulent donc ces grandes installations, qui se veulent aussi radicales que glaçantes. On pourrait aussi d'ailleurs voir un lien que je trouve intéressant avec le travail de Georges Perec sur les lieux et la Shoah en particulier. Mais, moi, ce qui me pose problème, c'est que il fait en permanence chevaucher des images de luge, de neige, de rêves partis, de séances de tai chi publiques, enfin bref, la vie quotidienne dans cette ville, avec un récit, une voix off absolument glaçante. Et rien ne permet le rapprochement, rien ne dit que ce choc des deux propose quelque chose. Et que à force de parler de cette façon-là d'une tragédie sans équivalent, je trouve qu'il nous perd en chemin et que l'installation devient presque inintéressante.
Ça s'appelle Occupied City. Voici maintenant le film sur Amy Winehouse, Back to Black, de Sam Taylor Johnson. C'est la réalisatrice, quand même, il faut le rappeler, de 50 nuances de grès. Il y a un journaliste anglais qui a écrit « Compte tenu de l'attitude de vautour avec laquelle on s'est acharné sur sa vie, il est presque impossible de trouver une raison sincère de faire un film sur Amy Winehouse, ou du moins une raison qui ne soit pas motivée par la pas du gain. » Alors, autant aller revoir ce super doc Amy d'Azif Kapadia.
Ah oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que là, on est vraiment dans le biopic pas très attendu, un portrait appliqué et qui ne donne pas la mesure de ce qu'a été cet artiste. Donc revenons, oui, au CD, au documentaire, à tout ce qu'on veut, mais pas à cette fiction.
Première affaire, c'est un premier film signé Victoria Musiedlak. Jeune avocate fraîchement diplômée, Nora Senoé Habita a l'impression de n'avoir rien vécu lorsqu'elle est propulsée dans sa première affaire pénale, de sa première garde à vue au suivi de l'instruction. Elle découvre le monde qui l'entoure. Moi, j'étais vraiment, je sais que c'est pas très crédible de dire ça, mais très touchée par ce premier film qui a envie de raconter tellement de choses, c'est vrai, sur toutes les premières fois d'une vie à l'aube de l'âge adulte. L'envie de s'émanciper de son milieu, Nora est fille d'immigrés algériens encore traumatisés par la décennie noire. Aussi, l'envie de se lancer dans un métier avocat, mais d'y découvrir toute la noirceur du monde en même temps que le stress et l'adrénaline. C'est aussi un premier amour déçu, étape par étape, traversé par une jeune actrice, Noé Habita, fluette et si forte à la fois et dont le jeu évolue en même temps que son personnage, et cette idée qui traverse tout le film, l'impact de la fonction sociale sur un individu.
C'est une très belle plaidoirie, ouais. pour un film d'avocat, mais malheureusement moi je suis vraiment passé complètement à côté, parce que je trouve que Noé Habita, ou plus précisément son personnage, soyons clairs, à force de naïveté, je ne peux pas croire à la naïveté de cette jeune avocate, quoi. Elle semble tout découvrir, du mécanisme de la garde à vue jusqu'au code civil ou au code pénal.
Elle tombe sur une première affaire terrible.
Oui, mais c'est invraisemblable, enfin franchement moi ça m'a semblé invraisemblable, et j'explique un peu ça par la fascination, alors tout à fait compréhensible de la réalisatrice pour cette jeune actrice Noé Habita, mais il aurait fallu justement qu'au bout d'un moment la cinéaste reprenne un peu la main sur cette fascination et travaille un peu plus le personnage.
Elle s'appelle Victoria Musiedlak et j'ai vachement envie de voir ce qu'elle va faire après. Notre monde, Louana Bajramila, elle c'est une actrice qui tourne. Kosovo 2007, deux jeunes filles quittent leur village reculé pour intégrer l'université de Pristina.
Oui, deuxième film après le premier, La colline où rugissent les lionnes. C'était quel titre formidable. Ça se passe au Kosovo, dont la famille de la réalisatrice est originaire, même si elle est née en France. On parle beaucoup de... Ça se passe au moment de la guerre du Kosovo. On en parle beaucoup dans le premier temps du film, avec même des archives d'images à l'appui. Et tout ce travail, je trouve, entre fiction et archives est très bien mené. On a envie de s'intéresser à ce portrait d'une jeunesse qui est, comme le pays, comme le Kosovo, complètement oubliée. Et cette jeunesse est aussi oubliée. Elle est en attente, elle est en désillusion, mais avec une incroyable fureur de vivre. Ça, c'est la première partie qui fonctionne très bien. J'ai eu le sentiment que dans la deuxième, la réalisatrice Bajrami avait... n'ont pas perdu ces deux protagonistes, mais en tous les cas, n'arrivaient pas à nous faire réellement intéresser à elle. Et le film, du coup, perd de sa matière, perd de son corps, là où il devrait encore plus nous émouvoir.
Super joli sujet dans un jeune chaman de la cinéaste mongole, alors, Kagvadoulam Purev Oshir. En fait, c'est un jeune chaman de 17 ans qui découvre l'amour.
Mais oui, c'est un très beau film d'initiation. Alors, un peu trop sage, peut-être, dans sa forme, on trouvera, mais extrêmement touchant. Parce que effectivement, il y a une belle, un beau portrait entre tradition et modernité, et avec une belle idée de nous faire vivre les évolutions de ce jeune chaman de façon capillaire. Il se tond les cheveux, et puis il les rase, et puis il les relaisse pousser. Tout ça indique évidemment des étapes dans son initiation et dans l'évolution de sa vie. C'est un premier long métrage.
C'est une fiction, hein.
C'est une fiction, bien sûr. Oui, absolument. Et c'est un premier long métrage, et c'est quelqu'un qu'il faudra suivre.
Ça, c'est un doc qui s'appelle Marie-Lou rencontre avec une femme remarquable. Quelques mois avant le coup d'État en 76 en Argentine, l'actrice Marie-Lou Marini arrive en France. Sandrine Dumas l'a filmée de 2016 à 2022 pour sonder au plus près cette passion du jeu qui l'anime. Elle est fascinante, cette femme.
Oui, ceux qui connaissent le théâtre d'Alfredo Arias, oui, et puis les pièces de copie ont toujours eu en tête Marie-Lou Marini, qui était une actrice incroyable de ce théâtre, qui l'a fait vivre, qui l'a incarné sur scène depuis les années 70, au moment où l'Argentine était sous la dictature. Elle est venue en exil ici travailler. Et là, on la voit travailler encore maintenant du Fassbinder. À 80 ans, elle est toujours en train d'être dans cette passion incroyable du théâtre, tout en reconnaissant que le corps faiblit, que c'est pas facile d'être à cet âge-là toujours sur scène. C'est extrêmement émouvant. C'est un magnifique portrait d'actrice.
Sur l'âge, elle dit, cette limite, c'est ton univers. C'est ça qui te donne les couleurs de ta singularité.
Ouais, c'est magnifique.
C'est très beau. Ouais, le temps du voyage d'Henri-François Imbert. En 40, le gouvernement de Vichy ordonna l'internement de tous les nomades de France, 6500 tziganes, pourtant de nationalité française, qui furent ainsi enfermés dans une trentaine de camps jusqu'à la fin de la guerre. Partant de ce fait historique, ce film nous entraîne dans le présent des tziganes aujourd'hui.
Oui, c'est une magnifique évocation de cette page d'histoire à la base, parce qu'elle est aussi méconnue qu'ignorée, enfin en tout cas de moi. J'ai découvert des choses à cette occasion-là. Et le réalisateur va effectivement à la rencontre, notamment d'une communauté gitane à Agde, avec des gens justement qui essayent de refaire naître cette mémoire, de faire en sorte que cette mémoire ne soit pas complètement perdue. Et que du coup, il y a une analyse, je trouve, très fine des rapports entre l'État français, quelle que soit à la limite les formes qu'il ait pu prendre à travers l'histoire, et puis cette communauté dont on sait qu'une partie voudrait être et rester profondément nomade, ce qui n'est pas tout à fait évident pour l'État en question.
Et un passé qui pourrait expliquer peut-être le sentiment de rejet d'une partie de la population.
Mais oui, absolument.
On va passer très vite sur N'avoue jamais d'Yvan Calberac avec Dussolier et Azéma. Un vaudeville comme au théâtre ce soir, poussiéreux et même embarrassant, non?
J'avais noté exactement les mêmes choses.
Bushman de David Chicalé. En 1968, Martin Luther King est assassiné et la guerre du Biafra entraîne une terrible famine. Gabriel a fui le Nigeria et vit à San Francisco au contact de la communauté afro-américaine comme des milieux de bohèmes blancs.
Il aura fallu attendre 50 ans pour voir ce film qui a été réalisé en 1971 à San Francisco, mais avec un personnage qui vient du Nigeria, et c'est tout le portrait magnifique des États-Unis de cette époque-là, violence politique, racisme, problèmes dans les campus, climat, etc. Tout le film le montre entre vérité et fiction en permanence, entre images d'archives et puis réelles, et avec cet acteur, Paul Okpoké, dont on suit aussi in fine halluciné, c'est-à-dire à la fin du film, qu'il a lui-même été visé par les autorités américaines à ce moment-là. C'est absolument passionnant, il faut aller voir ce Bushman.
On va terminer par trois cadeaux. Le premier pour Thomas Vadébé, on va lui faire deviner, mais à mon avis, c'est assez facile.
Ouais, de la famille?
Non.
Bien sait?
Pas vraiment.
Alors qu'est-ce que tu fous là?
Oh merde! Il l'enlève! Agnès!
Notre prochaine escale sera l'aéroport de Rio de Janeiro.
Rio?
Rio? Rio?
Brésil!
Thomas.
Rigasla.
Thomas.
C'est un blind test de film, là. J'ai déjà entendu, je connais, mais j'arrive pas à remettre le nom, là.
Allez, l'homme de Rio.
Oh là là,
Jean-Paul Belmondo. Magnifique édition chez Coin de Mire. On vous la recommande chaudement. L'homme de Rio. C'est évidemment un film extraordinaire. De Broca, coécrit avec Rapneau et Boulanger. Et la sublime Françoise d'Orléac aux côtés du sublime Belmondo. Il y a un très beau bonus, je vous le conseille, Thomas Vélébé, sur la musique du film qui a été écrite par le non moins génial Georges Delerue.
Il nous reste 30 secondes pour deux cadeaux.
Alors, Antoine Rabot, c'est Le Député, film espagnol extraordinaire qui ressort là aussi 1975, l'après-franquisme et la politique espagnole. Ça fait pas très envie, la politique espagnole, mais le film, oui. Artus Film, c'est l'éditeur. Et puis pour vous, Marc Sirigas, Les Boys de la Compagnie C, c'est un incroyable film américain de Sidney Fury, 1978, réalisé avant Full Metal Jacket.
Oui,
et c'est aussi une bombe chez Rimini Édition.
Merci. Une affaire de principe sur les écrans mercredi prochain. Merci.